Bonsoir, ici Autre Radio, Autre Culture. Nous recevons Alain Le Kim, qui est photographe et réalisateur de documentaires. Alors bonsoir Alain.
Bonsoir.
Alors je suis très contente de vous avoir ce soir, parce qu'on se pose plein de questions sur les problèmes de son, sur les problèmes de documentaire. Et je sais que vous venez de sortir une collection sur justement les... C'est sur le son et sur ceux qui travaillent dans le son, ou tout autour du son. Mais avant, auparavant, j'aimerais bien savoir comment vous êtes venu au son, parce que je sais que vous êtes à l'origine photographe.
Bonne question. Je suis venu au son parce que, en fait, quand j'étais gamin, il y avait un phono chez moi. On écoutait pas mal de musique. Et un jour, je me suis mis à tripoter le phono quand j'avais 3 ans. Et mon père m'a appris à mettre des disques. Donc c'était à l'époque encore des 78 tours. On se resitue au début des années 50. Et donc je prenais les galettes noires dans leur pochette en papier. Je posais ça sur le truc et je mettais le bras... l'aiguille sur le sillon, et ça faisait rire tous les amis de mes parents parce qu'ils voyaient un petit gamin comme ça qui mettait les disques et qui certainement était très fier de pouvoir faire ça devant tout le monde.
Et cela vous a amené la photo ?
Non, alors la photo, ça c'est encore une chose qui date aussi d'à peu près la même époque. Je crois que j'ai eu un appareil photo vraiment, je dirais, vers 2-3 ans. C'était un vieil appareil à plaque à soufflet qu'un ami de mon père m'avait donné, et je crois que ça a été mon jouet préféré pendant très longtemps. Je le trimbalais autour du cou, c'était une grosse chambre à plaques format 9-12. Il n'y avait plus d'objectif, il n'y avait pas de plaque derrière, il ne marchait évidemment pas. Mais j'étais très fier de me balader avec ça, j'avais l'impression d'être un photographe. Ensuite, je me suis rendu compte, maintenant je me rends compte qu'en fait... C'est mon père qui était artiste peintre et qui, dès les années 25, s'est acheté un appareil photo assez sophistiqué. Mon père était vietnamien, il vivait à Hanoï, donc imaginez un Zeiss en 1925, c'était quand même pas très courant. Et il s'est mis à faire des photos et j'ai retrouvé assez récemment les négatifs de ces images qui sont étonnantes parce que ce sont des images de peintres. Et mon père a toujours eu des Leica, des Rolleiflex, et quand j'étais gamin, donc je jouais avec ces engins. Et même après, c'était une manière de communiquer avec mon père en fait. Parce que mon père n'était pas quelqu'un de très bavard, et justement l'appareil photo était un moyen, peut-être un peu détourné, d'avoir une communication affective avec mon père. Et donc je me souviens qu'il m'emmenait souvent me promener, voir les boutiques de nouveaux appareils photo, etc. etc. Vers 12 ans, je jouais beaucoup avec ces Leica. Vers 12 ans, je me suis acheté un Leica d'occasion avec l'argent de poche que j'avais, quelques cadeaux de Noël, quelques enveloppes que mes grands-mères m'avaient données. Je me suis acheté un Leica d'occasion, évidemment, qui était un très vieux Leica, donc qui ne coûtait pas très cher. Et je me trimbalais toujours avec ça autour du cou, très fier. Je faisais des photos épouvantables, certainement, absolument sans intérêt. Mais j'avais un Leica autour du cou. Donc je suis venu par la photo, par la machine, plutôt que par la passion de l'image immédiate. Mais donc, comme je baignais dans l'image, puisque mon père était peintre, je pense que tout ça, ça a fait une espèce d'osmose et que donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Donc très vite, j'ai voulu devenir photographe, mais mes parents n'étaient pas très enthousiastes. Donc ils m'ont plutôt orienté vers des études supérieures sur lesquelles j'ai pas été très brillant, mais bon, voilà, j'ai fait Sciences Po, je me suis beaucoup ennuyé. C'est pas la meilleure période de ma vie. En fait, pendant toute cette période, j'achetais toujours des appareils photos, je faisais des photos et je continuais à m'intéresser à la musique. Et donc, la photo et la musique, c'est parallèle. La photo et le son, c'est parallèle, en fait. Ça a commencé à peu près à la même époque. Dès 14-15 ans, j'ai voulu améliorer le tourne-disque familial, que je trouvais pas très bon, parce que je commençais à trouver qu'on pouvait entendre des choses meilleures. Et puis après, j'ai voulu avoir ma propre chaîne stéréo dans ma chambre. Et puis je me suis rendu compte qu'un tourne-disque, c'était pas intéressant, qu'il valait mieux s'occuper de vraie haute fidélité. Et donc, je me souviens d'un de mes premiers voyages en Angleterre, j'ai acheté un bras de lecture haute fidélité, qui coûtait probablement le prix d'un tourne-disque complet. Et puis après, il fallait que j'achète le tourne-disque lui-même, la tête de lecture pour lire les choses. Et évidemment, même une fois que j'avais acheté ça, je n'avais pas d'amplificateur ni de haut-parleur. Alors, je me suis acheté un préamplificateur en kit et un casque. Et voilà comment j'ai commencé à m'intéresser sérieusement à la reproduction sonore. Et ça m'a toujours passionné. Pendant très très longtemps, j'ai été un audiophile complètement obsédé par le matériel de plus en plus délirant que je pouvais me payer. Et puis, c'est quand j'ai eu des enfants que cette folie s'est arrêtée parce que ça coûtait tellement cher qu'on ne pouvait pas tout faire à la fois.
Alors ça, c'est une particularité que je retrouve chez vous, que je lis dans les forums sur Internet, où vous êtes quelqu'un qui est quand même très, très féru des marques de prestige. Alors là, vous parlez de Leica. C'est pas n'importe qui a un Leica. Et on retrouve cela également dans le son, dans les micros, où vous cherchez toujours la pièce d'excellence pour pouvoir travailler.
Oui, toute cette histoire est probablement une quête de la perfection. Une perfection évidemment qu'on n'atteint jamais, donc c'est une des choses passionnantes dans cette quête, c'est qu'on n'y arrive jamais. Donc les appareils photo, évidemment, je me suis tout de suite, vous avez raison, j'ai acheté le premier appareil photo, c'était un Leica, ça aurait pu être un Kodak ou un Foca ou n'importe quoi, non, c'était un Leica. Je crois que donc, dans cette histoire de reproduction des images et du son, effectivement, je recherche la perfection le plus possible, c'est-à-dire donc Leica, ça veut dire des objectifs très particuliers. Je n'ai pas eu que des Leica, d'ailleurs, j'ai eu aussi toutes les autres marques d'appareils de prestige que je pourrais vous citer, mais qui n'intéresseraient probablement pas les auditeurs. Disons qu'à la fin de ma carrière de photographe, qui n'est pas terminée, mais quand je faisais que ça, je devais bien avoir une cinquantaine d'objectifs de très haut de gamme dans mon parc d'objectifs, que ce soit des optiques de chambre ou des optiques de moyen format ou des optiques 24-36, dont j'avais, je dirais, trois marques différentes d'appareils photo en fonction du rendu que je cherchais à obtenir.
Alors moi, j'ai eu la curiosité un petit peu d'aller regarder vos œuvres photographiques, puisqu'on a la chance qu'il y en ait quelques-unes qui sont présentées sur Internet. Alors pour certains, vous allez voir des magnifiques paysages d'eau, de mer. Moi, j'ai trouvé ça superbe, des vues d'avion extraordinaires. Et il y avait une critique d'ailleurs de Jacques-Robert de la Meilleraie qui disait que c'était fantastique. Là, vous êtes quoi ?
Alors c'est intéressant parce que ces images ont été faites, ce sont des images numériques qui ont été faites lorsque j'ai eu mon premier appareil numérique, qui était pas non plus n'importe quoi, c'était un Nikon D1 qui venait de sortir. Et j'ai trouvé que le rendu de cet appareil était extrêmement différent de ce qu'on avait avec les films argentiques. Et la courbe de réponse, on peut dire, puisqu'on peut faire des analogies entre l'image et le son, mais extraordinaire. D'ailleurs, tous les termes qu'on retrouve dans le son s'appliquent à la photographie, la compression, la dynamique, la gamme, la gamme de couleurs ou la gamme, enfin la gamme de fréquences. Tout ça, ça se rapproche. Et je trouvais que ce Nikon numérique avait un rendu dynamique très très différent des Leica, des Nikon, des Canon et des Hasselblad que j'avais. Quand j'ai vu ces images pour la première fois sur mon écran d'ordinateur, ça m'a donné envie de faire des paysages parce qu'on n'obtenait pas du tout ça sur les appareils argentiques. Depuis, les choses ont évolué, les appareils ont changé, on n'obtient plus du tout d'ailleurs cet effet-là sur les appareils numériques. Ça se rapproche beaucoup plus des appareils argentiques. Mais en fait, ces images sont un peu, c'est un peu une exception dans ma carrière parce que j'ai commencé dans la mode. J'étais assistant d'un grand photographe de mode que je vais citer qui s'appelait Laurence Sackmann et qui a été mon maître. C'est lui qui m'a appris à vraiment maîtriser la photographie. Non pas techniquement, parce que quand j'ai commencé à être son assistant, j'étais déjà photographe. Et ça a mis les deux associés que j'avais dans mon studio en rogne parce que tout d'un coup, je suis redevenu assistant. Alors ça, c'était incompréhensible pour eux. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu redescends dans l'échelle professionnelle. Et en fait, je pense que ce n'était pas du tout une erreur, parce que là, au moins, j'avais un photographe de très, très haut niveau, alors que ce que je faisais, comme j'avais appris tout seul, c'était correct. J'avais des commandes de publicité qui étaient correctes. Je faisais des photos correctes, mais ce n'était pas intéressant parce que ça n'allait pas jusqu'au bout de la perfection. Et avec ce photographe qui, lui, était déjà une star dans la mode, j'ai découvert ce que c'était que la vraie photographie à un très haut niveau. C'est-à-dire que tout d'un coup, on faisait de la mode, mais pour les gros budgets de mode, avec des top modèles qui étaient donc des vrais professionnels et pas des mannequins qui ne savaient pas trop travailler, des filles qui savaient travailler, des très bons maquilleurs, des très bons coiffeurs. On avait tous les moyens, parce que ce monsieur avait des moyens, c'était une star, donc on lui donnait tous les moyens pour faire les images qu'il voulait. On travaillait jusqu'encore à la chambre 20-25, ce qui était absolument invraisemblable, déjà à l'époque, il y a 20 ans, parce que chaque fois qu'on appuyait sur le bouton, ça coûtait plus cher que quand on faisait un film entier 24-36. Donc ça vous donne un peu l'échelle de ce qu'on faisait. Et donc je suis redevenu assistant pendant 2 ans avec ce monsieur, et j'avoue que ça, c'était extraordinaire. Moi, ça m'a complètement bouleversé en termes de façon de travailler, de façon d'appréhender les choses, de maîtrise totale du sujet. Et ce monsieur était non seulement un très grand photographe, c'est-à-dire qu'il savait vraiment ce qu'il voulait avoir dans son cadre, mais en plus c'était un technicien hors pair qui avait appris selon, on peut dire, la vieille école. C'est-à-dire que il calculait toutes ses lumières dans sa tête. Il avait des tables de calcul pour les ratios de puissance de lumière. Il faisait ça de tête. Alors que déjà, à l'époque, on avait ce qu'on appelle des flashmètres qui permettaient de mesurer. Et moi, je travaillais comme ça. Mais lui, quand je travaillais comme ça, je lui disais, tiens, on a telle valeur. Il me dit, oui, mais si tu te déplaces de 30 cm, tu vas certainement avoir ça. Et je le faisais avec l'appareil de mesure et on avait exactement ça. Donc c'était un mètre. J'avoue que ça m'a énormément appris. Et donc après ça, je me suis mis à travailler tout seul, enfin à travailler pour moi. Donc j'ai trouvé un agent, je me suis refait un dossier plus intéressant. Je n'avais plus besoin de studio parce que mes clients avaient des budgets plus importants. Donc on pouvait louer des gros studios beaucoup plus confortables et luxueux que le studio que j'avais. Et donc je me suis mis à faire des personnages, puisque c'était ça qui m'intéressait. Mais je n'ai pas voulu faire de la mode parce que ce qui se passait, c'est que on voulait bien que je fasse de la mode, qui est un milieu quand même assez fermé, mais il fallait que je fasse du sous Laurence Sackmann. On me disait, mais fais-nous ça. Et moi, je ne voulais absolument pas le faire parce que j'avais trop de respect pour ce monsieur. Et donc, il n'était absolument pas question que je fasse ça. Donc, je me suis mis à faire des portraits.
Mais on aime bien avoir sa griffe aussi.
C'est pas uniquement une histoire de griffe, c'est une histoire de modestie par rapport à ce personnage. J'avais trop d'admiration pour lui, pour le pomper, disons, en utilisant le mot vulgaire. Je trouvais que c'était pas éthique de faire ça. Parce que ma griffe, je l'ai trouvée, mais la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'était pas vraiment ça, c'était parce que je voulais pas le copier. Et donc je me suis mis à faire des portraits pour la presse féminine, en particulier Marie-Claire, où j'ai beaucoup fait de portraits de célébrités à l'époque, des actrices, des acteurs, des hommes politiques, des femmes politiques, toutes sortes de personnes. Et ça m'a beaucoup intéressé aussi, parce que c'est le portrait, en fait, c'est ce qui m'intéresse le plus en photographie, et ça m'a beaucoup servi pour la suite.
Alors là, justement, cet apport de la photographie professionnelle, est-ce que cela a vraiment aidé pour la réalisation de documentaires, puisqu'ensuite vous êtes passé à la réalisation justement d'images et de sons pour des documentaires?
Mais c'est un petit peu paradoxal. Je pensais on m'a proposé de faire des films totalement par hasard, c'est-à-dire que je m'intéressais à l'aviation. Et j'avais un ami qui était directeur des programmes d'une chaîne câblée qui s'appelle Planète, qui existe toujours, mais lui n'est plus là. Et un jour, il m'a montré des films sur l'aviation qu'il importait des États-Unis, qu'il achetait, pour nourrir sa chaîne. Et comme il ne connaissait rien à l'aviation, il m'a demandé de regarder parce qu'il savait que moi, ça m'intéressait. J'ai regardé ses films et il y en avait une quantité absolument incroyable. Et je lui ai tout de suite dit, écoute, pour les gens qui s'intéressent à l'aviation, c'est absolument extraordinaire. Ce sont des documents incroyables. C'était des images d'archives, c'était des films faits à partir d'images d'archives de constructeurs. Donc, on voyait des choses extraordinaires. Et je lui ai dit, mais pour une chaîne française, il n'y a que des avions américains, ça serait bien de faire la même chose avec l'aviation française. Et il m'a dit, bah, tu devrais y réfléchir, et c'est comme ça que je me suis mis à réfléchir à cette question. Et du coup, j'ai commencé à travailler sur le sujet, c'était surtout sur l'écriture que je travaillais, sur le sujet lui-même. Et puis s'est posé la question de faire ces films, et là il n'y avait pas de réalisateur. Donc il m'a dit, bah, t'as qu'à les faire. Alors, j'ai pas hésité longtemps, ça, je me suis dit, bon, allons-y. Et donc la production à l'époque m'a entouré de très bons techniciens. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans la réalisation de documentaires. Et je croyais que ma carrière photographique allait m'aider pour le cadre et la lumière, etc. En fait, j'en ai pas du tout eu besoin. Ce qui m'a surtout aidé dans ce bagage photographique que j'avais, c'est les rapports que j'avais avec les gens dans le portrait. Comme j'avais photographié des gens, des célébrités, des gens assez difficiles à photographier, où il y avait une énorme pression parce que c'était des pleines pages dans les magazines, et donc si la photo était ratée, le magazine ne pouvait même pas imaginer de redemander de refaire les photos, et moi, carrément, je perdais ce client qui était quand même un client important pour moi. Donc il y avait quand même une grosse tension que j'aimais bien, hein. Cette adrénaline me stimulait énormément. Et donc quand je me suis retrouvé à faire les documentaires, interviewer des gens, j'ai trouvé ça plus facile que de faire des portraits en fait. En particulier pour l'aviation, parce que je connaissais le sujet par cœur. Enfin, j'avais choisi les sujets, donc je m'étais bien documenté. Et donc quand j'ai rencontré les gens, notamment Serge Dassault, des pilotes d'essai des années 50, c'est vraiment des gens que je rêvais de rencontrer, de discuter avec des gens comme ça. Donc j'ai eu aucune difficulté à leur poser les bonnes questions parce que ça me passionnait tellement que je pense qu'ils ont dû voir que ça m'intéressait et du coup ils réagissaient très très bien. Alors j'avais des très bonnes interviews parce que ils voyaient que ça m'intéressait et du coup ils rentraient dans les détails et je les recadrais puisque évidemment c'était pour des documentaires de télévision, il fallait quand même que les gens puissent comprendre ce qu'ils disaient, mais en fait c'était pas difficile parce que comme ce sont tous des gens assez brillants, ils avaient très bien compris qu'il fallait qu'ils soient explicites. Et donc c'était facile. Et donc j'ai eu de la chance parce que en tombant sur des gens intelligents et brillants, c'est toujours plus facile que d'avoir à extraire des choses de gens qui n'ont pas grand-chose à dire. Voilà.
Alors vous avez continué dans cette expérience puisque récemment, je pense que du fait que vous étiez audiophile et que vous aimiez le son et l'excellence, vous avez créé une collection sur les ingénieurs du son et ceux qui travaillent autour du son.
Oui, alors ça c'est un projet qui est venu de manière assez curieuse. C'est venu d'expériences négatives, mais donc justement les expériences négatives sont toujours des bonnes expériences. Mm-hmm. Lorsque je faisais ces documentaires sur l'aviation, j'ai eu de la chance au début d'avoir des très bons techniciens, notamment dans le son, qui m'ont appris des choses. Des bons ingénieurs du son qui me disaient « tu ne peux pas tourner là parce que ça sera impossible ». En termes de son. Et il me collait le casque sur les oreilles, et là j'entendais effectivement l'autoroute au fond, ou des bruits absolument incroyables que, évidemment, mes oreilles entendaient, mais ne percevaient pas vraiment. Je suis aussi tombé sur des mauvais ingénieurs du son, pas beaucoup, mais un ou deux, et il y a eu quelques catastrophes, c'est-à-dire des bruits absolument impossibles à éliminer. Et j'ai compris que le son était un facteur très important. Et lorsque j'ai eu ces problèmes, le directeur de la chaîne Planète m'a dit « Mais écoute, il ne faut jamais oublier que la télévision, c'est 70% de son, 30% d'image. » Alors ça m'a fait sursauter sur le moment, puisque moi j'étais un homme d'image au départ. Et qu'évidemment, quand on voit au cinéma ou qu'on regarde la télévision, dans télévision, il n'y a pas audition. Donc, je n'ai pas tout de suite compris, mais en faisant les films, j'ai tout de suite vu effectivement ce qu'il disait. lorsqu'on fait des documentaires, je ne parle pas de films de fiction que je n'ai jamais fait, mais là c'est très différent parce que tout est écrit, tout est prévu à l'avance. Mais lorsqu'on fait des documentaires, on interviewe des gens. C'est basé en général là-dessus. Donc en fait, lorsqu'on monte le film, même si on a prévu un fil conducteur, on dépend totalement de ce que disent ces gens, et donc on monte sur le son et non pas sur l'image. Et ensuite, effectivement, on peut se débrouiller pour cadrer des images qui soient montables. On peut aussi faire des plans de coupe pour cacher des choses ou pour illustrer ce que disent les gens. Mais a priori, on base le film sur ce qu'ils disent, donc sur le son. Et c'est là où j'ai compris qu'évidemment, le son était un facteur clé dans les documentaires. Et le jour où j'ai voulu faire mes propres documentaires selon mes sujets, c'est-à-dire un documentaire sur mon père notamment, sur le Vietnam, là j'ai trouvé aucun producteur pour me suivre, parce que c'était pas un sujet à la mode, enfin bref, je ne vais pas épiloguer sur la façon dont les directeurs de programme choisissent leurs films pour les chaînes de télévision, mais c'est toujours assez amusant. Et donc ce sujet-là, qui était pourtant très intéressant, finalement ça n'intéressait pas les gens. Donc je suis parti tout seul, et là je me suis dit, il faut absolument que le son soit bon, et c'est comme ça que j'ai commencé à investir dans la première chose qui compte dans le son, ce sont les microphones. Donc, et d'où d'un coup, je me suis pris d'une passion pour les microphones. Je ne sais pas pourquoi, parce que en fait, je pense que cette passion pour les microphones vient de ma passion pour les objectifs d'appareils photo, puisque finalement, ce sont des transducteurs, c'est exactement la même chose. Ce sont des machines conçues avec énormément de soin pour reproduire à la perfection, finalement, des choses qui viennent de nous, c'est-à-dire des choses qu'on voit ou des choses qu'on entend et qu'on veut garder. Donc c'est pour ça qu'on veut que ça soit parfait, parce qu'on veut qu'elle traverse les âges. Donc le microphone me paraissait tout aussi intéressant que l'objectif d'appareil photo, et en plus il répondait exactement aux mêmes critères. Il y a des microphones directifs comme il y a des téléobjectifs, des microphones omnidirectionnels qui sont un peu des microphones grand angle. Et donc voilà, ça m'a intéressé tout de suite, et j'ai vu que les constructeurs aussi étaient tout à fait intéressants, parce que ce sont des gens qui recherchent la perfection comme les fabricants d'objectifs d'appareils photo. Et il y a le même amour de la mécanique parfaite dans ces objets que dans les appareils photo, ou en tout cas les objectifs. Et donc les micros m'ont tout de suite intéressé. Et j'ai voulu faire un documentaire sur les micros. Alors évidemment, inutile d'ajouter que ça n'intéressait absolument aucune chaîne de télévision. Ça, je pense que ça a même dû faire rigoler pas mal de gens quand je leur disais « Tiens, j'aimerais bien faire un documentaire sur les microphones. » « Ah bon, pourquoi les microphones céphaliques ?» Enfin, tout sauf évidemment la chose qui était intéressante, c'est-à-dire la perception, la perfection de la reproduction sonore et le délire dans lequel entrent les concepteurs de microphones pour faire des objets incroyables. Moi, je trouvais ça absolument incroyable. Pourquoi passer une année ou une carrière entière à concevoir des microphones? Ça peut paraître totalement aberrant. Et on rencontre des gens qui vous racontent que toute leur vie, ils ont passé 10 heures par jour à penser à concevoir des microphones. On peut citer 2-3 personnes. Hein, Monsieur Wuttke, par exemple, de chez la marque Schoeps, qui est un monsieur tout à fait étonnant, totalement passionné par ce qu'il fait. Il a une connaissance encyclopédique sur ce sujet très particulier. On peut en citer d'autres. Un monsieur qui s'appelle David Josephson, qui est un Américain complètement passionné aussi par les microphones. On parle avec ces gens-là, on est tout de suite sur une autre planète. C'est absolument incroyable. Ils vous font découvrir qu'on peut se passionner pour un objet très simple. Parce que finalement, un microphone, c'est très simple. C'est beaucoup plus simple qu'un appareil photographique, en fait. Ou qu'un objectif, en tout cas. Donc, j'ai voulu faire un film sur les microphones. Me rendant compte que personne ne s'intéresserait à ça, je me suis dit, ben, je vais les faire et puis je vais les distribuer sur Internet. Je vais monter un site Internet. Et en faisant cette recherche sur les microphones, alors j'ai contacté les grosses marques connues de microphones, dont Neumann. Je suis même allé à Berlin rencontrer les gens de chez Neumann, qui m'ont reçu très agréablement. Et puis, j'ai continué mes recherches, et là, je suis tombé sur des microphones de plus en plus ésotériques, de moins en moins connus. Et en tombant sur une de ces marques dans mes recherches sur Internet, j'ai contacté le distributeur français, qui était Christophe de chez Audio Addict. Et donc Christophe, on a tout de suite, dès le premier coup de téléphone, il m'a dit « Oh, mais c'est très intéressant !» Et on s'est rencontrés très vite et on a tout de suite commencé à penser comment on pourrait faire ça. Lui, ça le passionnait. Et puis finalement, de fil en aiguille, on s'est dit « Mais il n'y a pas que les microphones dans ce domaine du son qui est absolument passionnant. Le son, on ne le voit jamais en image, on va le mettre en image. » Et donc, on s'est dit qu'on allait faire une collection complète sur le son, c'est-à-dire sur les utilisateurs, les créateurs de son, c'est-à-dire de musique, les radios, tous les techniciens qui s'occupent de la fabrication du son, et évidemment, les fabricants qui fabriquent ces produits incroyables, dont les microphones, les préamplificateurs de microphones, les compresseurs, les enceintes, les amplificateurs, enfin tout, jusqu'au câble. Donc voilà, on s'est fixé des listes de gens à contacter, je les ai contactés. Alors évidemment, il y en a qui m'ont dit « Ah, très intéressant », d'autres qui m'ont tout de suite dit « Oh, mais bon, ça n'intéresse personne, on n'a pas le temps », et d'autres qui ont tout de suite dit « Ah, mais formidable », et j'ai commencé le premier film avec un monsieur qui s'appelle Jean-Jacques Baquet, qui est un personnage absolument passionnant, qui a une entreprise très artisanale qui s'appelle Klinger Favre, dans les Vosges, et qui fabrique du matériel, je dirais, comme un facteur d'orgue ou comme un luthier du XVIIe siècle. Ce monsieur travaille tout seul et c'est un artiste. C'est pas seulement un scientifique ou un technicien. C'est quelqu'un qui il va jusqu'au bout des choses et il le fait pour ses oreilles. Il ne le fait pas pour des chiffres ou des choses. Il le fait comme on fabrique un instrument de musique. Alors évidemment, j'ai trouvé ça passionnant. Et en discutant avec lui, je lui ai dit, on devrait faire un film. Et il m'a dit, bon, d'accord, mais il ne savait absolument pas dans quoi il se lançait. Il ne pouvait pas imaginer que ça allait être quand même une aventure de plusieurs mois, parce qu'évidemment, tout n'a pas été tourné d'un coup. On a tourné en plusieurs séances. Et il s'est rendu compte que les séances de tournage, c'est-à-dire les journées de tournage, quand je venais à Saint-Dié chez lui, pour tourner, ça durait 10 heures et qu'à la fin de la journée, il était épuisé. Mais il s'est bien pris au jeu et il a été extraordinaire parce qu'il a réfléchi à tout ce qu'il allait dire.
Oui, Jean-Jacques Baquet, c'est le premier opus de la collection, c'est ça ?
Absolument.
Et alors moi, je l'ai regardé en étant très candide, hein, bien que je sois dans un studio d'enregistrement, mais je ne fais que regarder. J'ai été très agréablement surprise justement de cette recherche de l'excellence de Jean-Jacques Baquet sur n'importe quel type de matériel qu'il utilise pour la création de ses enceintes. Par exemple, il y a toute une partie sur les câbles, l'importance des câbles. Alors, je sais que Philippe Labroux, il est pareil, il faut faire très attention à la façon dont on enroule les câbles, le choix des câbles, et on retrouve tout cela dans le DVD. Et moi qui ne suis absolument pas proche de ce type de technique, cela m'a passionnée pendant tout le DVD. J'ai écouté ça avec un intérêt, je me suis dit, mon Dieu, on arrive à faire des DVD justement qui soient passionnants, qu'on arrive à regarder de A à Z, et en train de se dire, mais quel homme merveilleux.
Mais oui, parce qu'en fait... Donc en prenant ces sujets que je trouve passionnants, tous ces objets extraordinaires, tous les utilisateurs de ces objets, je me suis rendu compte que finalement, il fallait que j'utilise mes compétences professionnelles qui étaient mes compétences de base, qui étaient donc le portrait le documentaire, les interviews. Donc je me suis dit, il faut baser un film qui est quand même relativement technique, qui parle de sujets assez pointus, il faut le baser sur des personnages plutôt que de le baser sur une description d'objets qui serait très vite fastidieuse et ennuyeux. Je me suis dit, trouvons des personnages qui non seulement sont des grands créateurs ou des gens passionnants, mais qui en plus ont une personnalité très forte qui fait qu'on est entraîné par leur aura, si on peut dire, enfin, ou leur caractère. Ils vous embarquent dans leur histoire avec leur passion. C'est des passionnés, tous ces gens. Et le fait qu'ils soient passionnés fait que on est pris par leur passion. On se dit, mais c'est incroyable, pourquoi fait-il ça ? Et au fur et à mesure qu'il vous explique pourquoi il le fait, on trouve ça de plus en plus intéressant. Et on se dit, mais c'est de plus en plus délirant. Et je trouve que ce qui est intéressant dans la réalisation de ces documentaires, enfin c'est l'angle que j'ai décidé de prendre pour cette série de films sur le son, j'ai décidé de le baser sur des personnes, parce que c'est avec les personnes qu'on fait les meilleures histoires, et aussi parce que ce sont les meilleurs vecteurs de leur propre histoire.
Tout à fait. Mais par rapport à ce qui se passe actuellement dans le son et par rapport à ce qui se passe dans les télévisions, dans le cinéma, enfin je pense plus particulièrement à ce qui se passe en France, n'est-il pas à côté de cette évolution du son qui ne va pas à la perfection, justement?
Et c'est justement pour ça qu'il est passionnant. Et c'est justement pour ça que ces personnages m'intéressent, parce qu'ils font des choses, ils vont jusqu'au bout. Ils ne suivent absolument pas un plan marketing ou un plan de carrière, ou ils font les choses, je dirais presque à l'envers, et ils font les choses parce qu'ils sont, ils sont motivés par une espèce de force intérieure qui les pousse à faire ça, que j'ai peut-être aussi, puisque finalement je fais des choses, faire des documentaires sur le son, en choisissant cet angle-là. C'est vraiment aller à contresens de ce que font les télévisions, qui font aussi des choses sur le son, hein, Star Academy, etc. C'est sur la création des artistes, on voit une espèce de faux making-of de ces
que
gens-là.
Que l'on voit aussi dans les doublages.
Oui, les doublages.
Qui sont maintenant de plus en plus mal enregistrés, alors qui là, sont du bas de gamme.
Là, on rentre effectivement dans un domaine qui est très particulier. Je pense que l'entrée du numérique dans la diffusion, c'est-à-dire dans les chaînes de télévision et les radios, est en train de casser la qualité, parce que on retire aux ingénieurs du son qui sont très compétents pour la prise de son et qui sont capables de faire des voix, de vraiment de restituer des ambiances, etc. Moi, je prends l'exemple de France Culture, qui est une chaîne, une radio que j'ai toujours beaucoup aimée, qui avait jusqu'à présent un son, et France Musique aussi, un son dans les interviews très particulier. Dès qu'on branchait cette radio, on disait « on est sur France Culture ». On a un son onctueux, je ne sais pas, inexplicable.
Mais on avait la même chose autrefois avec, par exemple, je pensais au reportage de France Inter avec L'Oreille en Coin. Quand ils faisaient leur reportage, il y avait toujours un son spectaculaire. Que maintenant, tout a disparu.
Alors, effectivement, tout maintenant, je trouve, enfin, en tant qu'auditeur, d'ailleurs, je n'écoute pratiquement plus ni la radio ni la télévision, parce que je trouve ça effectivement accablant. Je ne pense pas que ce soit de la faute des techniciens qui s'occupent de la prise de son. Je pense que tout est dû à la diffusion, c'est-à-dire que à la diffusion, tout est numérisé et tout est compressé par des appareils probablement très sophistiqués, vendus par d'excellents vendeurs, aussi des services techniques probablement très compétents, mais qui veulent évidemment tout gérer de manière très logique. Et du coup, on entend souvent, je vais citer un exemple qui m'amuse toujours beaucoup, des DSR mal réglés qui font que tout le monde parle comme ça. Alors excusez la personne qui prend la prise de son là, mais c'est comme s'il avait un mauvais compresseur.
Oui, c'est ça.
C'est absolument incroyable, parce qu'on sait que ce ne sont pas des gens qui parlent comme ça, puisque justement, en fonction du niveau de leur voix, cet effet disparaît. Donc c'est simplement parce que la machine est réglée une fois pour toutes que probablement personne n'a le droit d'y toucher, parce qu'on leur a dit que c'était pour la diffusion, c'était comme ça que ça devait être. Et du coup, on a un son absolument effrayant. Je dirais qu'il vous dégoûterait presque d'écouter les
mais
émissions.
Nous avons une anecdote comme cela au niveau de la famille. Mes beaux-parents qui s'inquiètent de la mauvaise qualité de leur radio et qui disent à leur fils « Écoute, on va devoir acheter une nouvelle radio parce que notre radio ne marche plus du tout, cela chuinte. » Et il y a des espèces de et ils trouvaient ça très 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 désagréable. Alors ils avaient l'habitude d'écouter la radio régionale, et le fils écoute et il dit non, ça vient pas de ton appareil radio, ça vient des émissions radio, ça vient de la compression qu'ils donnent dans les émissions radio, qui fait que cela devient inécoutable. Il est vrai que je me suis désintéressée de la radio depuis qu'ils ont changé, depuis qu'ils compressent beaucoup plus et qu'on arrive à avoir des sons qui font très mal aux oreilles finalement, qui sont très très violents à ce niveau-là, dans les aigus et autres.
Moi, je dirais qu'ils ont tendance à déconcentrer de la personne qui parle, surtout pour quelqu'un comme moi qui s'intéresse au son. J'ai pas envie de l'entendre, le son, justement. J'ai pas envie d'entendre la fabrication du son, j'ai envie qu'il soit parfait. C'est le but. Et donc, quand j'entends qu'il n'est pas parfait, ça me hérisse tellement que je ne peux plus écouter ce que dit la personne. Parce que je suis furieux, déjà. Et en plus, je trouve que c'est un manque de respect pour la personne qui parle dans la radio.
Alors moi, ça m'a amusé parce que là, on dérive un peu sur tout le problème du son, que ce soit dans le cinéma, dans la télévision ou la radio. J'avais un exemple et pourtant, on a beau me dire que lorsque l'on passe en bande française, quand ils sont doublés, il y a toujours la bande de son qui est derrière. Je me souviens d'avoir vu un film en version originale, un film américain, et de l'avoir vu ensuite en version française. Et j'écoutais, c'était un grand film, et j'étais là en train de me dire, mais c'est bizarre, j'ai l'impression d'être sourde, il y a des sons qui ne m'arrivent plus. Et en fait, je m'étais aperçue que dans la version, entre la version américaine et la version doublée française, des sons dans les profondeurs avaient disparu. Le son devenait beaucoup plus plat, malgré un soi-disant son THX dans les cinémas.
Alors ça, c'est une question de post-production et de moyens de post-production. On peut arriver à avoir une très bonne qualité ici en France aussi. Il y a des très bons techniciens, il y a un savoir-faire qui existe ici. Je crois que c'est purement et simplement une question de marketing et de budget.
Est-ce qu'on les utilise encore, ces grands techniciens?
Oui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est ensuite. C'est comme les ingénieurs du son en musique de variété qui font des choses incroyables. Il suffit d'assister à une séance de prise de son et de mixage dans un studio. Ils font un travail incroyable, pas forcément avec des artistes géniaux. Il faut bien qu'ils ont des clients qui sont les maisons de disques, etc. Et puis alors, après, quand ça s'entend sur une télévision, sur une radio ou compressé en MP3, finalement, tout le travail de ces ingénieurs du son est saboté littéralement par le marketing entre guillemets, mais parce que c'est pas que le marketing, c'est l'état d'esprit purement commercial. Enfin, tout le monde connaît cette guerre des radios où finalement tout doit être le plus fort possible. Donc on arrive à ce paradoxe extraordinaire où on supprime complètement la dynamique, tout est fort. Donc maintenant, et là j'ai des anecdotes incroyables, je viens de passer un mois à Los Angeles à tourner donc des films sur le son dans des studios d'enregistrement mythiques, et je suis tombé sur le patron d'un de ces studios, qui était un monsieur absolument extraordinaire, qui avait un des plus beaux studios d'enregistrement musique d'Hollywood, dans lequel ont été faits des albums, des Rolling Stones, enfin bon, toutes les grandes stars ont enregistré dans ce studio. Et il disait, ce que je dis en beaucoup mieux, il disait, mais maintenant, les radios, elles veulent, finalement, qu'est-ce qu'on écoute? Une bande toute droite, il n'y a plus de dynamique. Et il disait, c'est un son qu'on écoute, qui est fait pour être écouté sur des oratones, ou les oratones étant des mini-moniteurs d'écoute, justement pour restituer la mauvaise qualité des radios ou des télévisions, des oratones ou des petits haut-parleurs d'ordinateur. Il dit, et quand on écoute ça sur des. Quand je fais écouter cette musique sur des moniteurs de studio, ils ont effectivement des gros haut-parleurs de studio. Les gens disent, mais vos haut-parleurs ne marchent pas. Et alors ce monsieur se met en colère, donc ça sera dans un des films que je viens de tourner là. Il se met en colère, il dit, ah bon, vous trouvez que mes haut-parleurs ne marchent pas? Mais attendez, moi je vais vous faire écouter quelque chose. Il sort une vieille bande enregistrée dans les années 80 ou même 70, où il y avait encore de la dynamique. Il met les haut-parleurs et là, les gens s'écroulent en disant, ah mais c'est pas possible, j'avais jamais entendu ça de ma vie. Voilà où on en est.
Oui, c'est le problème actuellement, finalement.
Je pense qu'il ne faut jamais perdre espoir, parce que finalement, on arrive toujours à retrouver une qualité ailleurs. Pendant longtemps, on a perdu, on s'est dit, le numérique, ça ne marche pas bien, c'est dégueulasse par rapport à l'analogique, ce qui était vrai. Mais maintenant, on arrive, et là, il y aura peut-être matière à polémique, parce que je ne suis pas moi-même un technicien du son, mais j'ai quand même entendu pas mal de gens. On arrive maintenant à une qualité qui est quand même tout à fait excellente, et on peut travailler sur le son avec du numérique comme on ne pouvait pas le faire avant. On peut monter des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, on peut avoir plus de dynamique. Enfin, on a vraiment maintenant la possibilité de faire des choses incroyables, mais les impératifs de marketing, de technologie de masse font qu'on compresse tout en MP3 pour que ça passe sur Internet et qu'on puisse avoir le plus de chansons possible sur un mini iPod. Mais ce qu'on oublie, c'est que ça change très vite. Les tout premiers iPod, les tout premiers baladeurs portables à disque dur, ils avaient 3 gigaoctets, même, peut-être même pas. On en est déjà à 30 gigas. Donc ça veut dire qu'on peut mettre beaucoup plus de musique. Et qui écoute sur son portable 10 000 chansons? C'est totalement aberrant. Donc on va arriver au stade où les mémoires de masse de ces engins seront tellement peu chères et tellement puissantes qu'on aura 150, 200, 300 gigas sur un petit truc grand comme un timbre-poste ou un grand comme un téléphone, dans lequel on pourra mettre de la musique moins compressée. Donc, il ne faut pas perdre espoir.
Donc, vous êtes optimiste?
Ben, je crois qu'il vaut mieux être optimiste dans la vie, parce que sinon, on s'achète un superbe fusil chez Gastine Renette, on l'astique bien, et ensuite, on tire une balle dans la tête.
Alors, ce DVD de Jean-Jacques Baquet, on le trouve où?
Alors, ce DVD se trouve, on le vend sur notre site internet soundstrips.com ou sur le site audioaddict.com aussi, ou .fr. Et on en parle souvent sur Audiofanzine aussi. Donc ça, c'est le premier. Il y en a d'autres qui vont sortir incessamment sous peu. Il y en a un qui, le prochain qui sort, c'est sur un ingénieur du son français qui a la particularité de faire à la fois des grands shows live et du studio. Il a son propre studio d'enregistrement qui est un magnifique studio. Et donc il produit les disques, et il fait les albums et il fait les shows au Zénith notamment. Et donc je l'ai filmé au Zénith sur des spectacles comme le spectacle, le concert de Zazie par exemple. Et je l'ai filmé dans son studio en train de mixer, notamment avec William Scheller, qui est un des artistes avec qui il travaille et dont il est en train d'enregistrer et de mixer le prochain album. Il y a d'autres DVD qui vont sortir. Il y en a un sur un ingénieur du son cinéma qui s'appelle Guillaume Siama, qui est un monsieur qui travaille beaucoup pour le cinéma français, qui a fait énormément de films prestigieux avec Patrice Chéreau, avec Haneke, enfin avec plein de grands artistes, et qui aussi est un passionné de son travail. Donc ça, c'est un DVD qui est pratiquement... Il me reste quelques scènes à tourner avec lui, mais comme c'est un monsieur qui est très occupé, on peut pas toujours tout tourner quand on veut. Et j'en ai deux autres que j'ai tournés en Californie, qui sont un sur une entreprise qui s'appelle Manley Laboratories, et qui est dirigée par une femme qui s'appelle Ivana Manley, qui est une femme extraordinaire, qui gère cette entreprise toute seule, avec une maestria incroyable. Et elle m'a promené un peu partout en Californie pour aller chez des gens qui utilisaient son matériel. Elle m'a fait rencontrer plein de gens très intéressants. Donc ce film est entièrement tourné. Il est en cours de montage. Et j'en ai un autre aussi sur un monsieur qui s'appelle Jonathan Little, qui fabrique du matériel de studio pour sa propre entreprise qui s'appelle Little Labs. Et ce monsieur est un ancien technicien des grands studios d'Hollywood, et il fabrique des appareils très très spécifiques pour les ingénieurs du son, des choses que les autres ne font pas. Et je l'ai suivi pendant 10 jours à Hollywood, où il m'a entraîné, il m'a emmené voir tous ses amis ingénieurs du son dans les plus beaux studios d'Hollywood. Donc ça, je pense aussi que ça va être un film très intéressant, parce qu'on voit comment les Américains travaillent, notamment en Californie, ce qui est très très différent de New York, et évidemment très très différent de la façon dont les gens travaillent et se comportent dans la vie courante en France. C'est très très différent. Donc je pense que ça va aussi intéresser pas mal de gens.
Tout ça en courant 2008?
Alors tout ça courant 2008, assez rapidement même, parce que c'est tous ces quatre films, il y en a un qui n'est pas complètement terminé, donc celui sur Guillaume Siama, mais les trois autres sont terminés et sont en cours de montage plus ou moins avancés. Donc celui sur Jaget, sur Yves Jaget, c'est le prochain. Lui, il est pratiquement fini. On a fini la traduction en anglais pour faire le voice-over en anglais. Les films américains sont en cours de montage. Ils seront finis début 2008. traduite. Il faudra évidemment faire une traduction en français pour faire une version en français et une version sous-titrée, parce que je sais qu'il y a des gens en France, ça c'est une des qualités de ce pays, qui aiment regarder les films en version originale sous-titrée. Alors que ça n'est pas le cas aux États-Unis, où donc on est, moi je suis obligé de doubler tous les films, tous les documentaires que je fais en anglais, pour le marché anglo-saxon, parce qu'ils ne lisent pas les sous-titres.
C'est normal, ils ne lisent pas assez vite.
C'est possible, c'est possible.
Bon, de toute façon, les coordonnées des DVD, nous allons les mettre sur Autre Radio, Autre Culture. Les gens pourront prendre le nom des sites et les liens pour pouvoir se les procurer.
Formidable.
Bien. Bon, je vous remercie beaucoup, Alain Le Kim. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, j'espère à très bientôt.
Eh bien, je l'espère.
Allez, au revoir. Ici Radio, Autre Radio, Autre Culture. Eh bien, à très bientôt. Au revoir.